Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Voilà, merci d'être penché sur la fréquence de la paix. Merci de suivre votre magazine Okapi Service. Et on va donc poursuivre avec notre sujet, avec le sujet de cette deuxième partie de l'émission, comment réussir la réinsertion sociale des ex-enfants soldats. Nous allons plutôt aborder ce sujet avec notre invité à la place de Junior Ndita, ambassadeur pour les causes des enfants soldats à l'ONU. Nous aurons plutôt Didier Bitaki, qui est expert en désarmement, démobilisation et réinsertion. Il est en ligne. Didier Bitaki, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question sur la réinsertion sociale des enfants ex-soldats, parce qu'on le sait, bien souvent, dans différents groupes armés, on recourt aux enfants pour les utiliser dans ces groupes armés, alors que leur place n'est pas là. Leur place, c'est plutôt il faut être à l'école, il faut assurer leur éducation, et souvent, lorsqu'on arrive à sortir ces enfants de ces groupes armés, ils se pose un problème de leur réinsertion sociale. Est-ce que à ces jours, on peut avoir une idée sur ces problèmes de réinsertion sociale des enfants ex-soldats? Comment ça se passe?
Merci beaucoup de votre question. Je salue les auditeurs qui me suivent en ce moment.
Oui.
On parle bien de la question la plus sensible, que la question des enfants soldats et par rapport à leur désarmement. Je pense, pour être un peu plus bref sur cette question-là, il y a plusieurs raisons qui entrent en compte pour qu'il y ait répétition de recrutement ou d'intégration ou de recyclage des enfants soldats. La première des choses, c'est qu'il faut définir la catégorie d'enfants qui sont utilisés par les forces et groupes armés au courant de cette période tragique de la République démocratique du Congo, surtout à l'Est. La première chose qu'il faut retenir est qu'il y a de ces enfants-là qui intègrent les groupes armés, non pas parce qu'ils ont été rapprochés par le groupe, mais plutôt parce que les conditions de vie de ces enfants-là, d'une part, peuvent être orphelins et ont perdu leur père pendant la guerre, ou alors d'autre part, ils se sont retrouvés dans des conditions où la vie devient de plus en plus difficile, et le moyen de recours auquel ils peuvent peut-être faire appel, c'est juste en s'enrôlant dans des groupes armés, c'est en ce moment-là que les enfants se dirigent vers les forces et groupes armés ou les milices. Ça, c'est la première catégorie d'enfants qu'on peut identifier. La deuxième catégorie, c'est qu'il s'agit des enfants qui sont effectivement recrutés par la force, et que quand on les amène dans les groupes armés, il faut savoir d'abord l'objectif de ce groupe. Ce sont les groupes qui sont toujours en conflit avec le gouvernement et qui sont en tête des éléments pour les servir, qui se font recruter par, qui recourent aux enfants soldats juste pour renforcer leur capacité militaire. Alors, le troisième groupe, ce sont des enfants qui proviennent des centres de réinsertion, qui, après avoir été récupérés ou retirés des forces et groupes armés, ils sont placés dans des centres d'encadrement juste où ils doivent attendre leur réinsertion, et qu'on retrouve malheureusement par manque de moyens de prise en charge efficace ou de stratégie de leur encadrement, ils se voient délaissés et ils retournent facilement dans les groupes armés, quel que soit l'âge. Et ce sont là les trois catégories qu'on retrouve en République démocratique du Congo dans le cadre des enfants soldats qu'il faut réinsérer ou retirer. Voilà un peu le trois questions qui concernent les enfants soldats en République démocratique du Congo.
Voilà, on s'est rendu déjà compte de la complexité de ce point par rapport à la réinsertion, parce que là, avec ces trois catégories d'enfants, celles qui intègrent le groupe armé simplement parce que les conditions de vie sont difficiles, et également, vous avez parlé de la deuxième catégorie, c'est des enfants qui sont recrutés de force, et puis cette troisième catégorie, des enfants qui étaient dans des centres de réinsertion, et du fait qu'il n'y a pas une très très bonne prise en charge et ces enfants sont réintégrés encore les groupes armés. Alors, puisqu'on parle de la réinsertion sociale de ces ex-enfants soldats, lorsque déjà au niveau du centre de transit, il se pose un problème de prise en charge, là, ça aggrave encore la situation parce que quand déjà ces enfants sont sortis des groupes armés, ils sont dans un centre de transit pour essayer d'assurer leur réintégration et après, faute de prise en charge, là le problème devient encore plus complexe, monsieur Didier Bitaki.
Mais justement, j'ai eu à le souligner bien au départ que c'est juste une question très complexe et très compliquée.
Oui.
Parce qu'au départ, il y a d'abord la responsabilité des autorités de la République, donc la responsabilité du gouvernement. Parce que moi, bien qu'il pourrait y avoir des appuis extérieurs ou des appuis des ONG ou des amis partenaires de la RDC, mais la responsabilité première incombe au gouvernement de la République. Donc, c'est au gouvernement de veiller à la protection des enfants. Je parle qu'il existe une loi portant protection des enfants et des familles. Mais cette loi n'est pas appliquée. C'est pour cette raison qu'on retrouve beaucoup d'enfants. Maintenant, quand on entame l'étape de réinsertion, l'étape plutôt de leur prise en charge ou de leur retrait même, vous trouverez que d'une part, la question devient de plus en plus bureaucratique et les questions sont traitées trop loin des liens où doivent être prises en charge la question qui concerne la prise en charge des questions des enfants soldats. C'est ça la première problématique. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas une stratégie ou une politique globale visant la protection des enfants quant à ce qui concerne leur réinsertion sociale, leur encadrement, en ce compris également à la question de l'éducation, de la santé, de l'assurance. Donc ce sont toutes ces matières-là qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement se sent absolument responsable de l'échec qui concerne le vagabondage, l'utilisation des enfants soldats et consorts, même si récemment on a eu à nommer Madame Janine Mabunda, que je salue en passant, pour veiller au recrutement des enfants soldats et à la violence sexuelle. Mais effectivement, sur le terrain, l'impact de ces travaux ne se fait pas sentir. Parce que l'impact n'est pas seulement de se retrouver devant les tribunaux pour peut-être intervenir ou donner un avis par rapport aux condamnations ou aux jugements des auteurs de crimes, de violences sexuelles et consorts. Mais la question la plus essentielle, c'est de veiller à ce que les enfants soient effectivement protégés des envies ou peut-être des atteintes qui sont portées contre eux par les forces et groupes armés. Donc, le gros de travail devait concerner cela. C'est pour cette raison que la sensibilité de cette matière exige qu'il y ait des discussions, des réformes même de la politique qui concerne la mise en œuvre des projets de réinsertion et de prise en charge sociale des enfants soldats. Je pense, en grosso modo, c'est ça.
Alors, s'il faut parler de chiffres, est-ce qu'on peut savoir en ces jours combien d'enfants ont pu être sortis des groupes armés et puis et combien ont pu être réinsérés?
Si j'ai bonne mémoire, de 2008, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à intervenir dans cette question, cette matière qui concerne le groupe des enfants soldats.
Oui.
De 2008 à 2015 plutôt, il y a eu au moins 22 000 enfants soldats sortis de forces et groupes armés. Certains se sont fait démobiliser gratuitement, volontairement. D'autres l'ont été dans les différents centres qui ont eu à être érigés, surtout notamment à l'Est. Et d'autres encore se sont fait enrôler comme étant des anciens enfants soldats. Donc sur ces 22 000, je pense qu'actuellement, il y a seulement à peu près 2700 enfants soldats qui sont pris en charge par le gouvernement et le reste est volatilisé dans la nature actuellement. On ne sait pas s'ils retrouvent dans les forces groupes armées ou alors ils ont pris quelle destination. En tout cas, ça reste une matière qu'il faudra analyser à fond et les rechercher peut-être pour s'assurer qu'ils ne servent plus de main d'œuvre pour l'alimentation de la guerre ou la crise à l'aise.
Voilà, si vous venez de vous joindre sur la fréquence de la paix, c'est le magazine Okapi Service, comment assurer la réinsertion sociale des enfants soldats, c'est le sujet abordé avec notre invité Didier Bitaki, qui est expert en désarmement, démobilisation et réinsertion. Si vous avez des questions à poser, appelez au 081 890 63 94.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Mangilio nous appelle de Mayagi et Jean-Cy Lumanu est à Kananga. Mangilio, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à notre invité. J'ai quelques petites préoccupations à poser à monsieur l'invité.
Oui.
La première est de savoir comment s'appelle la personne chargée de la réinsertion sociale. La seconde est de savoir si ici au Congo, la tâche de la réinsertion sociale est accordée à quel service précisément ici au Congo, soit les ONG là qui sont chargés de la réinsertion sociale ici au Congo. Voilà, c'est que c'est des petites préoccupations. C'est de la part de Mangilio de Fimagi.
Merci Mangilio. Jean-Cy Lumanu, vous êtes à Kananga. Bonjour Jean-Cy.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question?
Oui monsieur, malgré que je vous ai pris en cours de route concernant le deuxième sujet, mais je n'ai pas de questions à poser parce que je n'ai pas entré en profondeur avec cet sujet, mais je voulais seulement demander à notre invité, est-ce qu'on peut, que l'invité peut nous donner l'âge qu'on a déterminé pour recruter quand même les enfants dans l'armée? Merci, c'est gentil, le mandécan en nouvelle vision.
Merci Jean-Cy Lumanu depuis Kananga. Didier Bitaki, qu'est-ce que vous dites à Mangilio qui a cherché à savoir comment on appelle la personne chargée la personne qui recrute les enfants s'il y a une domination spéciale pour ce genre de personnes, et puis le service de l'État qui est chargé de s'occuper de la réinsertion?
Écoutez, ça c'est une question complexe. On ne peut pas donner des qualifications d'office à la personne qui recrute des enfants, mais en termes de droits, conformément aux dispositions légales internationales et différents instruments nationaux qui ont été ratifiés par le gouvernement congolais, je pense la première qualification qu'on donne à quelqu'un qui recrute des enfants, sûrement c'est un criminel. C'est-à-dire c'est un criminel qui doit subir la rigueur de la loi dans la forme actuelle de la politique générale du gouvernement. Bon. Quant à ce qui concerne la deuxième question, c'est une qualification que je donne en tant qu'expert et en tant que juriste des formateurs. Et en deuxième lieu, en ce qui concerne la deuxième matière où il faut identifier les services qui baissent de la question des enfants, je pense que la réinsertion appartient au ministère des Affaires sociales et humanitaires. La question de démobilisation et confort concerne le ministère de la Défense, parce que là où se trouve le ministère de la Défense nationale en fait pour la réinsertion. Mais en ce qui concerne alors la prise en charge de cette matière, il y a des ONG partenaires, des ONG amis qui interviennent dans le même domaine, mais qui viennent en appui au gouvernement congolais et non qui prennent cette responsabilité comme étant acteur direct. Le premier acteur, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et humanitaires, ainsi que Solidarité nationale, mais aussi en association, en collaboration avec le ministère de la Défense qui a en charge la question de la réinsertion. Mais de toutes les façons, ça ne concerne pas seulement ces deux services, ça concerne également la direction, disons, la coordination nationale de l'UFNDDR, qu'on appelle unité d'exécution du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion et réintégration. Voilà les différentes catégories d'intervenants qui doivent traiter la question des enfants comme l'auditeur a posé la question. Voilà.
Ouais, il y a également cette question de Jean-Cy Lumanu qui a cherché à savoir qu'est prévoit la loi sur le recrutement des enfants, c'est-à-dire à partir de quel âge on peut déjà être recruté, par exemple, au sein de forces armées.
Vous m'avez pris en cours de route, mais en ce que je sache, en termes de droit, c'est que l'âge légal que prévoit la loi congolaise est de 18 ans, c'est constitutionnel. Donc, en dessous de 18 ans, toute personne qui se retrouve au sein des forces et groupes armés est considérée comme enfant soldat. Il est de manière volontaire ou involontaire ou forcée, il est de fils enfant soldat. Mais à partir de l'âge de la maturité ou l'âge de la majorité, il considère tous de 18 ans. C'est lui qui se retrouve dans le groupe ou force armée et est militaire à part entière et en ce moment-là, il doit être traité comme tel. Mais s'il est en dessous de cet âge,
Il est considéré comme enfant soldat, quel que soit le motif que les auteurs ou les acteurs de son recrutement peuvent évoquer, cet enfant-là est considéré comme cela. Voilà.
Didier Bitaki, s'il faut revenir aux chiffres, parce que vous avez évoqué de 2008 à 2015, il y a 22 000 enfants et qui étaient sortis des groupes armés, dont seulement environ, en tout cas moins de 3 000, vous avez parlé de 2700 qui ont pu être réinsérés.
2800.
Ouais, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de la réinsertion sociale des ex-enfants soldats, et vous avez dit, c'est vrai, c'est un problème complexe, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment faire à l'amont? Est-ce que il faut chercher à identifier des ONG qui sont dans ce genre de travail d'assurer la réinsertion des enfants soldats, de voir comment leur donner peut-être des moyens pour s'occuper de ces enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, quand déjà sur 22 000 enfants sortis des groupes armés, il y a à peine 2700 qui ont pu être réinsérés, c'est comme si le problème demeure, le problème reste entier.
Bien sûr, comme vous le dites, mais je ne pense pas que en donnant le moyen ou la responsabilité aux ONG de s'occuper des enfants soldats, on aura résolu le problème. J'ai eu à le souligner au départ. La responsabilité primaire incombe aux institutions de la République, qui sont le ministère que j'avais cité précédemment. Mais maintenant, en ce moment ici, où il faut qu'on y trouve des solutions, on peut associer des partenaires. Oui. Mais il faut savoir que la première politique doit être définie au niveau gouvernemental pour savoir si les ONG échouent à résoudre ces problèmes malgré les moyens qu'on aura mis à leur disposition. Qu'est-ce qui s'ensuit au juste? Quel sera le gouvernement? C'est ça la définition de la politique qu'on est en train d'évoquer ici. Mais maintenant, en ce qui concerne l'implication des ONG, les ONG viennent juste avec des objectifs spécifiques. Mais l'objectif global doit être défini au niveau du gouvernement et doit être donné en termes de sous-bassement, en termes d'outils à ceux qui s'impliquent dans la question de démobilisation, de réinsertion et réintégration. La réinsertion suppose la prise en charge, le suivi jusqu'à ce que l'enfant devienne mature, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge où il pourra se prendre en charge. Or, en se retrouvant dans les groupes armés, il aura perdu d'abord les temps d'études. Il aura perdu le temps de resocialisation, il aura perdu beaucoup d'éléments que des psychologues doivent s'occuper de ces enfants-là pour les resocialiser, pour les amener à ce qu'ils soient utiles à eux-mêmes et à la société. Et le gouvernement de la République n'a jamais défini une politique qui va dans ce sens. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous êtes en train de constater que sur le terrain, que ce soit les groupes armés, comme même au sein des forces armées, bien que les cas aient été déjà pris en charge et aujourd'hui on est en train d'éviter qu'il y ait un grand nombre d'enfants soldats, mais on voit sur le terrain, on recrute des enfants aujourd'hui, on les recrute pour avoir fait au niveau des ONG ou au niveau peut-être des institutions gouvernementales, mais 3 mois plus tard, vous les retrouvez encore dans les groupes armés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une politique de suivi qui a été prédéfinie avant d'amener cet enfant dans le centre où il devait être resocialisé. Donc, pour moi, cette question ne concerne pas les ONG. Les ONG viennent appuyer et contribuer. Mais la première responsabilité, la prise en charge, la gestion de ces programmes revient d'abord au gouvernement de la République à travers les institutions de citer que j'ai cité juste dans mon introduction.
Didier Bitaki, on va poursuivre avec vous le temps d'accorder la parole à Boniface qui nous appelle de Minova. Boniface, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Boniface. Quelle est votre question?
Ma question est la suivante. Ma question a dévoilé. Je la pose, je l'adresse au niveau gouvernemental. Qu'est-ce que le gouvernement a proposé comme programme pour encadrer la jeunesse? Pour que la jeunesse ne soit pas facilement convaincue pour adhérer dans un ou un autre groupe armé. Et de deux, nous voyons que dans notre pays, la jeunesse est totalement abandonnée. La jeunesse n'a pas d'occupation. Qu'est-ce que le gouvernement peut nous dire, les programmes qu'il peut aussi proposer pour occuper la jeunesse? Parce que l'année 2013, j'avais essayé de travailler avec l'association, la fondation du Jibansamba pour chercher à encadrer un peu les enfants. Quand nous avons posé aux enfants soldats des questions, les enfants disent ce qui nous a motivé d'aller, c'est parce que là, quand on va avec les groupes armés, nous trouvons quelques moyens et l'argent même que nous trouvons, parce qu'il y avait des enfants Par exemple, dans le territoire de Massissi, dans le groupement Famando 2, nous avons travaillé avec les enfants là-bas, nous avons essayé de sensibiliser les enfants pour un peu chercher comment les récupérer. Les enfants disent, ils partent travailler la nuit avec les groupes armés. La journée, ce qu'ils apportent de là comme argent, comme bien volé ou pillé, ça aide aussi aux parents. Et il y a un enfant qui m'avait même, j'avais tiré beaucoup d'attention sur ce que l'enfant là disait. Il disait, il y a même son frère qui étudie à Lubumbashi, à cause de ce que lui fait comme dans des groupes armés, ça aide aussi son frère à payer les frais à l'université, parce qu'ils veulent aussi que dans leur plan là, qu'il y ait aussi un cadre universitaire. Maintenant, je demande au gouvernement, quel est le programme mis ensemble pour occuper les enfants, c'est bien, occuper aussi la jeunesse qui vient d'accrocher les diplômes d'État.
Merci Boniface depuis Minova, Lubumbashi. Maître Michel est en ligne. Bonjour maître.
Bonjour aussi les journalistes, bonjour aussi à l'invité. J'encourage d'abord vraiment ce sujet que vous avez abordé. Nous trouvons que dans notre pays, les enfants sont vraiment délaissés. Les enfants sont délaissés. Et par rapport à ce sujet, j'ai à demander quand même à l'invité. Et ces enfants-là que les différents services de l'État récupèrent dans les groupes d'armée, là, qui sont les enfants qui sont encore des mineurs, est-ce que quand on les récupère, d'abord, on doit commencer à travailler le mental de ces enfants. Il y a de ces enfants-là qui entrent par volonté pour se ramasser quand même de l'argent. Et il y a aussi de ces enfants-là qui sont forcés juste pour compléter l'effectif quand même du groupe quelconque. Mais maintenant, quand on les récupère de ces groupes-là, qu'est-ce que le gouvernement donne des valeurs pour que les enfants oublient parmi les enfants qui sont entrés volontairement, pour que ces enfants-là oublient de fracasser encore les gens, de récupérer de l'argent, et pour que le gouvernement donne maintenant un autre travail à ces enfants, que ces enfants vont commencer aussi à trouver de l'argent. Sinon, si le gouvernement n'a pas prévu ça, les enfants auront toujours l'ambition de rentrer là-bas parce qu'ils ont besoin de l'argent. C'est ce que j'ai demandé un peu à notre invité. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en jeu pour donner à ces enfants-là, parce qu'ils sont nombreux. Et si le gouvernement ne donne rien, vous pouvez aujourd'hui les rentrer, par exemple, dans la vie courante ici. Demain ou le lendemain, ils vont encore rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent rien de ce que le gouvernement est en train de donner. C'était un peu ça ma question, monsieur le journaliste.
Merci maître Michel depuis Lubumbashi. On revient avec notre invité Didier Bitek, qui est expert en désarmement, démobilisation, réinsertion. Avec lui, on parle de comment réussir la réinsertion sociale des ex-enfants soldats. Vous avez suivi Didier Bitek. Il y a Boniface qui a appelé de Minova, qui est revenu. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit sur la catégorie de ces enfants qu'on retrouve dans les groupes armés. Ça, là, il était dans ces catégories d'enfants qui ont témoigné, qui sont partis dans ces groupes armés simplement parce que les conditions de vie étaient difficiles, et puis là ils ont estimé qu'ils pouvaient se retrouver au sein de ces groupes armés. Et alors sa question était de savoir en amont, qu'est-ce que le gouvernement en principe doit avoir comme programme pour encadrer ces enfants de manière à ce qu'ils puissent pas mordre le morceau, c'est-à-dire qu'aller à la région de les groupes armés. Et vous avez également suivi Maître Michel, lui a abordé le problème un peu en aval, c'est-à-dire que il a ses enfants, vous l'avez également évoqué, lorsqu'ils arrivent au centre de transit, c'est la prise en charge qui pose problème. Didier Bitek.
Merci beaucoup. Je pense que je remercie d'ailleurs les auditeurs qui venaient de poser des questions. Mais ces questions sont directement adressées au gouvernement de la République, comme je l'ai. Je ne suis pas actuellement membre du gouvernement, j'interviens en tant qu'expert qui comprend bien la matière et qui le traite au quotidien avec différents acteurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est lequel? Le gouvernement n'a jamais défini une politique globale de gestion des questions de la jeunesse. Il existe une loi sportive, il existe une loi sur l'art, sur la culture et consorts, mais jamais il n'existe une loi de protection de la jeunesse. Ça, c'est la première problématique à laquelle le gouvernement devait s'attaquer, présenter une loi pour la protection de la jeunesse, et d'une manière globale. Cette loi devait définir les grandes lignes
sur lesquels, sur base desquels, en définissant les modalités d'encadrement des étudiants, les modalités d'encadrement des écoliers, les modalités d'encadrement de ceux qui font, disons, l'école professionnelle. Et en ce moment-là, on saurait que voilà, à partir de cet âge ou de cet âge, le gouvernement a la charge, la responsabilité. La Constitution définit bien toutes ces matières, mais il faut une loi organique qui spécifie les choses et qui dégage les responsabilités par rapport à la mise en œuvre de cette loi, à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. En deuxième lieu, la jeunesse en soi. Le problème qui se pose aujourd'hui est qu'il n'y a jamais eu restauration de l'autorité de l'État, parce qu'il y a un auditeur qui a réalisé. Pour que la jeunesse, ou alors les enfants ne puissent se faire recruter, pour que la jeunesse n'embrasse pas la carrière militaire illégale, il faudra d'abord qu'il y ait restauration de l'autorité de l'État. Lorsque l'État existe sur les terres, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer facilement un groupe armé et utiliser les enfants ou la jeunesse à ses propres fins. Ça ne peut pas se faire dès lors qu'il y a la police, l'armée, la justice, et il y a les services administratifs de l'État qui gèrent la situation qu'on constitue à la base. Mais lorsque le gouvernement actuellement n'a pas encore décidé de réinstaurer l'autorité de l'État, il y a le pouvoir coutumier qui a disparu. Il y a également les chefs de poste d'encadrement administratif. Il n'existe plus dans certains milieux. Et du coup, on donne l'accès. Accès à l'anarchie. Et à ce moment-là, ce sont les braves qui utilisent leurs moyens pour qu'ils soient disposés. Et quand l'accès aux armes est assez facile en République démocratique du Congo actuellement, alors ils en profitent pour créer des désordres en utilisant la jeunesse et les lancer contre les institutions, soit pour les utiliser contre leurs concitoyens. Voilà pourquoi est-ce qu'il est urgent. Je suis en train de suivre les gens à s'entretenir sur la question des dialogues, sur la question des élections, sur la question de la paix, mais il y a des matières prioritaires et urgentes auxquelles on doit d'abord répondre. Et s'il faut en discuter au cours du dialogue, ce n'est pas seulement la question des élections qui doit intéresser le public congolais. Ce qui intéresse le public congolais, c'est l'existence même de l'État, parce qu'actuellement, peut-être à Kinshasa, on peut en parler, l'État peut exister, mais ça ne faut pas que les Koulouna ne puissent tuer l'État à Kinshasa. Ce qu'il faut, c'est de définir des modalités concrètes dans le cadre de la jeunesse au cours de ces nouvelles périodes que nous voulons entendre. Mais si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que même en nommant toute la jeunesse congolaise dans la lutte contre le recrutement, l'utilisation ou peut-être l'usage des enfants soldats dans les forces de groupe d'armée, ça ne pourra pas prendre ce de l'or que cette jeunesse est délaissée à sa triste sort et que personne ne s'en soucie jusqu'aujourd'hui. On devait des questions qui concernent les finances publiques, des questions qui concernent l'économie, mais nulle part aujourd'hui à suivre les autorités parlées de la prise en charge de la jeunesse. Et c'est ça le problème que nous avons au niveau de la République. Actuellement, quelqu'un qui termine l'université, il a tendance à vouloir embrasser une carrière politique simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais la politique du gouvernement en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse inclut également la politique de l'emploi, l'attribution de l'emploi, la gestion des problèmes causés par le chômage des jeunes. Ce sont là les matières qui doivent être traitées. Donc pour répondre clairement et aider nos auditeurs à comprendre cela, cette matière est assez complexe, qu'elle comporte plusieurs volets, qui incombe directement à la responsabilité ou à la charge de nos autorités. Et donc, il faudra que la jeunesse, absolument concernée, elle peut s'auto-sensibiliser. Elle peut également aider les autorités en posant directement ce genre de questions aux autorités qui ont la décision, qui peuvent peut-être chercher à comprendre ou avoir des solutions à proposer par rapport aux revendications de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait que les revendications de l'homme politique. Peut-être que c'est ça, mais on ne comprend pas le problème de force nationale qui constitue également un danger pour la survie de la nation.
Voilà Didier Bitaki. Donc on retient qu'il faut une politique globale sur tous les problèmes de la jeunesse et parmi ces problèmes il y a également cette question de réinsertion sociale des ex-enfants soldats. Merci beaucoup Didier Bitaki d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes expert en désarmement, démobilisation et réinsertion. Merci, au revoir.
Merci, au revoir, je vous en prie.